Hey ho, let's go, c'est Plume et Pinceau, l'émission de bande dessinée de Canal B avec mon très cher comparse Mr. Roger.
Ouais, bien, tout est en rime. Bon, le ton, on dirait un petit peu un match de l'équipe de France contre Israël, mais...
Taquin que vous êtes.
Non, en fait, j'ai pas vu le match, mais il paraît que c'était une grosse bouse, personne ne bougeait, c'était assez bizarre, il y avait plus de politique dans la tribune officielle que dans le reste du stade. Une scène un peu surréaliste. Comme je crois, il va falloir qu'on s'habitue en ces temps troublés. Voilà, une émission bourrée, mon bon Erwan.
Ouais, alors il va y avoir des news, de la chronique, et puis notre deuxième rencontre qui est des bulles de session 2024. C'était un duo, Monsieur Morvan et Monsieur Moineau, qui étaient là pour nous présenter L'Armée des Ombres aux éditions Phileas. Une adaptation du roman de Kessel. Ça nous a permis de parler d'histoire et de résistance surtout. Ça sera donc l'interview du jour. Et puis aussi de la musique. Alors toujours dans mon petit délire des Johnny, cette fois je vous propose Johnny Thunder.
Yes.
Je vous proposais un petit Chinese Rock avec Johnny Thunder.
Excellent choix.
Merci Roger. Avant de retrouver tout à l'heure Monsieur Morvan et Monsieur Moineau en interview pour l'Armée des Ombres, une news, une héroïne est décédée. Madeleine Riffaud, l'héroïne d'une bande dessinée par Monsieur Bertheil et scénarisée par Monsieur Morvan que nous avons rencontré. Elle était un peu là dans notre interview sur l'Armée des Ombres.
Oui, tout à fait.
Parce que effectivement, les deux messieurs se sont livrés à un exercice de style qui l'a mis en valeur, qui nous l'a fait découvrir, parce que c'est un sacré personnage, c'est Madame Riffaud. Communiste de conviction, c'est une grande figure de la résistance, avec une vie extrêmement riche, des hauts, vraiment, elle a combattu toute sa vie, une vie exemplaire, et mille vies en plus.
Et surtout, combattu toujours comme l'autoritarisme, le colonialisme, d'où qu'ils viennent. Et c'est pour ça que pendant la guerre d'Indochine, en tant que communiste, je veux pas dire qu'elle était de l'autre côté, ça pourrait être mal interprété, ce qu'elle était avant tout pour la paix, mais elle était du côté nord-vietnamien, ce qui était cohérent dans son propos. Et c'est une dame vraiment qui est restée fidèle à ses convictions toute sa vie.
Voilà, et elle vient de décéder. Vous pouvez retrouver sa vie vraiment superbement racontée et dessinée par ce duo, la Bertheil-Morvan, la Madeleine résistante, c'est ouais. Air Libre, donc chez Dupuis. Redécouvrez la BD pour rendre hommage à cette dame. Voilà, je crois que vous avez aussi, une nécrologie,
et oui,
hélas.
Oui, le Vagabond des Limbes, c'est surtout grâce à cet album-là que je le connaissais. Moi, monsieur Christian Godard s'en est allé. Il était scénariste de cette série en compagnie de monsieur Ribera.
Au dessin.
Dessin. Parce que, ce qu'on oublie, moi le premier, c'est que ce monsieur, il est vraiment... et il restera de toute façon à jamais désormais, mais multicasquette. C'est un monsieur, il était dessinateur avec ses séries les plus connues, c'est Norbert et Carrie, Martin Milan, ça c'était dans Tintin, Norbert et Carrie c'était dans Pilote, et il va aussi être de scénariste pour de nombreux auteurs, donc notamment Ribera. Et je voudrais juste m'arrêter la science-fiction, tiens, sortons un peu de notre quotidien et de morose.
Une dystopie.
Là, c'était une super histoire, une espèce de quête, puis bien fichue, avec toute une série, mais en fait, dont les albums ne suivaient pas vraiment, toujours avec le héros, un espèce de prince à bord du Silver d'argent, le Dauphin d'argent.
Le nom de ce vaisseau, je m'en souviens plus. Il avait un faux côté, Prince Vaillant dans la coupe de cheveux.
Ouais. Et le décor, les costumes, et il était en compagnie d'un petit personnage qui avait.
Masculin ou féminin,
c'était ça l'ambiguïté. On va le savoir petit à petit au cours des albums. Et Petit Clown, il l'appelle toujours Petit Clown, le héros. Une série vraiment magnifique, science-fiction, mais plein de poésie autour de la recherche, parce qu'il recherche Chimère, vous savez, qu'on lui a chippé. Et c'est terrible comme histoire, voilà, une histoire sans fin, magnifique. Et il était aussi, j'ai appris ça, je ne savais pas, mais il était également, il avait donc à son actif entre dessinateur et scénariste, c'est plus de 230 albums. Et il a également écrit des romans, des pièces, des sketchs ou encore des scénarios de télévision. Ce monsieur-là...
Il réfléchissait trop.
Ouais, ne s'arrêtait jamais. Voilà, Christian Godard s'en est allé lui aussi.
Interlude musical, programmation arrangée. Oh là là, I Billy Moon Explosion. Qu'on appelle ça un boogie.
Ouais, c'est énorme. Excellent morceau, la programmation à Roger. Tiens, je continue dans les news. Une pétition, j'ai piqué ça chez Actua BD Magazine,
ouais,
qui parle de bande dessinée. Une pétition de soutien au Spirou et la Gorgone Bleue de Dany. Pétition de plusieurs milliers de signatures demande à Dupuis de remettre en vente Spirou et la Gorgone Bleue de Yann et Dany. Accompagnée d'une lettre à son PDG Julien Papelier et à son directeur éditorial. Elle dénonce la censure d'un ouvrage qui s'attaque avec humour aux dérives de l'industrie agroalimentaire, au danger de la malbouffe, qui utilise la caricature et le second degré pour sensibiliser, pardon, les jeunes lecteurs à des questions citoyennes peu abordées par ailleurs. Alors c'est vrai que, moi je vous l'ai dit, alors plus qu'encore, alors il y a déjà le fait que Dupuis ait fait dans son froc pouf et retiré ça sous la pression de, comment on appelle ça, une sensitive reader. Sensitive, voilà. Je rappelle quand même que, on pourrait rappeler à cette sensitive reader qu'il, en plus, c'est du délire, quoi. Si on prend dans le travail de Yann, par exemple, je voulais en parler la semaine dernière, mais j'ai oublié, la Patrouille des Libellules. Patrouille des Libellules, une BD parue chez...
C'est vieux, ça.
Ça
oui,
devait être... Allez, je dirais comment...
Patrouille des Libellules, je vais chercher ça vite.
Yann et Hardy.
Oui, c'est ça.
C'était terrible, c'était terrible. Comment effectivement le Yann au scénario et le dessinateur s'emparaient des images sacrées de la guerre, le général de Gaulle qui se fait essayer de se faire. Il y a une espèce de super secrétaire qui essaye de bricoler le général de Gaulle et elle n'y arrive pas. Et de Gaulle ne bande pas parce qu'il. Mais je suis la France, madame. C'est énorme, c'est totalement énorme. Ben voilà, cette sensitive reader que ben, si par malheur elle devait lire comment la Patrouille des Libellules, c'est bon, on pourrait même purger le travail de Yann de 80% de ses BD à la vitesse où on va. Ouais. Et là, justement, ce comité là rappelle que dans certains pays, quand même, ce genre de décision amène à des cérémonies d'épuration. Il faut rappeler quand même, en 2019, plus de 5000 livres jeunesse à travers le monde, hein, notamment aux États-Unis, parmi lesquels des albums de Tintin, Astérix et Lucky Luke ont été brûlés sur l'autel de l'inclusivité. Vous voyez, et ça craint du cul, et plus encore, c'est ce qui se passe par la suite. Je ne t'ai pas bien rendu compte la semaine dernière, mais effectivement, le père Dany, qui avait fait l'affiche pour un festival, etc., n'est plus invité. Ça devient de la...
Cancel.
Ouais, et ça devient de la folie furieuse. Et c'est, à mon humble avis, je ne trouve pas que ce soit véritablement à l'honneur du festival que d'avoir, comment vous dites, cancellé, on va dire plutôt ostracisé, parce qu'on a des mots en français pour le dire, ostracisé le père Dany sur l'autel de l'inclusivité et sur la foi et la voix d'une... on appelle ça sensitive reader. Nous vivons... si on n'a pas le fascisme d'extrême droite, on a le fascisme de l'inclusivité. Et je vois pas où est la différence, quoi. Si ce n'est que c'est toujours pareil, c'est de la censure.
Oui. Et c'est vrai. Et maintenant, tu vois aussi que vraiment le monde de la bande dessinée est dépendant et connecté aux réseaux sociaux, quoi. Parce qu'il y a maintenant vraiment des sorties d'albums ou des vies d'albums qui effectivement sont conditionnées par des gens qui sont à l'extérieur de la bande dessinée.
Il y a une autre maison d'édition qui avait été plus couillue, c'est rapport à une bande dessinée avec une héroïne qui était par trop, elle avait été jugée trop racisée et fantasme de mâle blanc dominant, etc. Et l'éditeur s'était pas déballonné, par contre, parce que la BD effectivement ne rentrait pas absolument pas dans les schémas paranoïaques de cette sensitive reader. Et ça va bien, quoi. Si t'aimes pas le bouquin, tu l'achètes pas, quoi.
Le truc qui est aussi particulièrement étrange dans cette affaire, moi c'est ce qui me sidère le plus, c'est du coup la cote qu'a pris cet album.
Ouais, c'est dégueulasse. Et ça aussi, c'est un autre pendant qui me saoule, quoi. Et nous, on l'avait emprunté la semaine dernière pour avoir un avis, vous rappelez, l'a rendu. Et bon...
On n'aurait pas dû... En fait, on est con par moment. On n'est pas vénal.
Entre 3 et 500 euros. Moi, je dis ça pour les gens. On vous l'a dit, à la BD, ça peut rendre riche, mais la moralité n'y gagne pas. La morale ou la moralité ? La morale.
Ouais, et juste pour rebondir effectivement sur Yann, la patrouille des libellules, je me souviens du Le Chien des Cisterciens. Je me souviens vachement de cet album-là.
Deux ou trois albums, la patrouille des libellules.
Et je crois que c'est le premier. Et je me souviens de la couve, en fait. Tu vois là, une gamine comme ça avec une pierre qui va achever un chien, une espèce de Doberman.
La gamine est tout ébouriffée.
Ouais.
Et ce qu'il y a de dingue, c'est que ça reprenait de façon totalement inversée au milieu dans le monde des frics, l'univers de Prince Eric avec Joubert.
Ouais, c'est dingue.
C'était du Joubert à l'envers.
Du Joubert à l'envers.
C'était absolument génial. Et ben, face qu'effectivement, les sensitive readers ne se penchent pas dans l'œuvre du pauvre monsieur Yann, parce qu'effectivement, on va finir par l'emmener au bûcher, cet homme-là. Et ça devient de plus en plus saoulant, je vais vous dire, voyez.
Retrouvons les Mélénas avec Bang.
No.
les Mélénas avaient attiré Bertrand. Il est venu nous voir. Il profite de la moindre occasion pour passer. Ouais, non, mais ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu.
Ça, c'est vrai. Ça fait. Nous, on le croyait mort. Pour nous, il était mort.
On lui passe le bonjour, amical.
Et c'est ce qu'il pensait de nous aussi. Nous n'étions pas mal. Alors, on passe aux chroniques, hein, si je dis.
Ouais, allons-y. À moins que vous ayez encore une mauvaise nouvelle à nous annoncer, mais je trouve que c'était bien. La barque était chargée.
Alors,
ok, vous voulez commencer par ça. Ok.
Ouais, allons-y, puisqu'on est dans le fun. Abordons le Guerre à Gaza de Joe Sacco, un tout petit ouvrage. Alors, ça, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais je veux dire, c'est une sorte. Bon, je prends ça pour une espèce de. C'est un petit ouvrage. Hein, c'est pas une grosse trentaine de pages dans lequel Joe Sacco livre sa pensée sur ce dessinateur américain. Livre sa pensée sur les événements à Gaza et au Proche-Orient.
Les événements actuels.
Voilà, depuis le fameux 7 octobre maudit, qu'il soit mille fois maudit. Et c'est ce qu'il dit, en fait. Donc, Joe Sacco, je rappelle pour ceux qui l'ignoreraient, pour moi, c'est la référence en BD sur les événements du Proche-Orient. Un monsieur qui s'est totalement intégré jusqu'à passer du temps là-bas, voyager là-bas, discuter avec les gens, vivre avec les gens. Pour réaliser, je dirais, non pas une œuvre militante, si, quelque part, parce qu'on est forcément militant quand on voit des gens enfermés dans une prison à ciel ouvert, déjà, mais c'est surtout humaine et une trace de... Parce que Joe Sacco, aussi, lui, à sa manière, ses ouvrages, d'ailleurs, qui viennent d'être compilés, si je dis pas de bêtises, un gros recueil où on trouve tous les travaux de Joe Sacco, ses derniers travaux sur le Proche-Orient, et ce monsieur-là, en fait, fait œuvre d'histoire et nous offre à voir tout un peuple dont l'Occident aimerait bien le faire passer sous le tapis, pour être clair. Et c'est un peu ce qu'il dit. Et voilà, je peux pas m'empêcher de vous dire, ne serait-ce que les deux premières bulles de ce petit ouvrage où il dit il parle de lui, hein, Joe Sacco, ma première réaction au raid du Hamas en Israël le 7 octobre a été la paralysie. Le nombre de victimes parmi les civils israéliens m'a horrifié et a rendu insignifiant tous les prétextes que j'aurais pu accepter pour justifier la dimension militaire de l'attaque. Donc il est clair. Quiconque s'intéresse aux événements du Moyen-Orient, même de manière superficielle, savait que la réponse d'Israël serait fulgurante et disproportionnée. Mais je n'étais pas théoriquement préparé au pire. La réalité de l'assaut sur Gaza, telle que l'ont rapporté les journalistes palestiniens restés à leur poste au péril de leur vie, a dépassé mon entendement. Et effectivement, ce qu'il dénonce avant toute chose... C'est alors vous savez, dès qu'on parle de génocide, oulalalala, est-ce que c'est bien un génocide, est-ce que les gens étaient bien en ligne, faisaient la queue pour aller dans des chambres à gaz, etc. Vous voyez, on joue sur les mots. Or, ce qui se passe à Gaza, c'est quand même l'élimination de toute une population en direct, quoi. Et je crois que c'est plus d'une centaine, 150 journalistes, la plupart proche-orientaux, qui couvraient les événements Gaza, qui ont y laissé leur peau, ce dont parle Joe Sacco. Et à travers ce petit ouvrage, donc Joe Sacco, à travers des grandes allégories, on voit Netanyahou, des dessins saisissants, Biden. Regardez Biden, la façon dont Sacco est une espèce de momie. Et alors on est là, on flippe, hein, on flippe sur les déraisons de Trump, sûrement à juste titre. Mais il faut savoir que le 11 octobre 2023 et le 16 novembre ainsi que le 12 décembre de la même année, le père Biden, alors que ça avait été prouvé que c'était totalement faux, a continué à répéter en boucle, brûler, décapiter des nourrissons, c'est totalement inhumain, le subissent que les Palestiniens du Hamas auraient fait subir à des nourrissons israéliens. Et quand vous voyez ça, vous dites putain, les Américains ont fait le choix, cette espèce d'éponge molle là, qui a fini par balancer Kamala Harris dans la raid avec les résultats qu'on a vus. C'est vrai que s'il avait mis un petit peu plus de temps à la mettre sur orbite, les choses auraient peut-être changé, mais est-ce que ça aurait changé le sort des Palestiniens? Pas sûr. Pas pour Joe Sacco en tout cas, pour qui effectivement l'élimination des Palestiniens comment arrangent tout le monde, pas seulement les Américains, mais les Européens, et c'est peut-être même aussi certains voisins arabes qui en ont un peu marre de ce bordel-là, qui le contrôlent que de très loin, en fait. Vous voyez ? Et ces pauvres Palestiniens n'ont pas d'avenir, mais Josaco nous rappelle de manière assez terrible que l'Occident est mort à Gaza. On a un dessin terrible où il dit, bah voilà, l'Occident est mort à Gaza, et c'est vrai que c'est toute cette morale, la morale de l'Occident, qui défend normalement les droits de l'homme, qui est bafouée tous les jours, depuis les attentats horrifiques commis par le Hamas du 7 octobre. Alors ça s'appelle, alors je sais que c'est pas très drôle en ces temps, mais vous ferez en plus une bonne action, c'est chez Futuropolis, alors c'est pas parce que chez Futuropolis c'est une bonne action, mais comment dirais-je, de chaque album, en fait, Josaco remet les droits, ses droits de commande d'auteur à des associations venant en aide à des personnes dans la mouise.
Qui est-ce voilà. Qui édite ce petit fascicule des Futuropolis? Donc ouais. Ça s'appelle Guerre à Gaza.
De Josaco, et ça coûte vraiment pas cher. 6,97 euros, vous faites une... Et puis vous apprenez des choses aussi, en plus.
Alors moi je vous propose une petite dystopie. Moi aussi un futur qui est un peu stressant, un peu angoissant. En fait c'est une histoire qui va bien se terminer, donc ça c'est cool. C'est l'histoire d'une résistance et de la remise en question d'un système oppressif qui repose sur un triptyque produire, consommer, contrôler. On est dans le futur donc, mais un futur, tu sais, qui serait une espèce de, plutôt on va chercher dans les univers métropolis, Brésil, tu vois, avec cette imagerie, il y a beaucoup de décors avec des grands immeubles, des escaliers qui partent partout, et des pubs au néon, et puis il y a aussi ces grands placards de jolis pin-up qui sont affichés partout, et on les appelle les yeux doux parce qu'en fait c'est un système de surveillance de la ville.
Elles sont kawaii.
Ouais, elles sont jolies, on dirait des pin-up des années 50, elles ont des grands yeux et en fait elles cachent des caméras qui surveillent la population dont on lui demande de produire et de consommer. Et en fait ce qu'on va voir c'est comment le système va être mis en question par une histoire d'amour en fait, tout bêtement. En fait, il y a un gars qui justement utilise les yeux doux. Sa mission, c'est d'observer dans les magasins, etc., la fauche, les comportements déviants, etc. Et il fait arrêter parce qu'il a vu voler de la nourriture une jeune fille. Et cette jeune fille, Annabelle, va hanter les quelques nuits après l'arrestation qu'il a provoquée. Et il va faire un truc dingue pour lui, alors que c'est l'ouvrier modèle du système de surveillance. C'est le fonctionnaire parfait. Avec lui, les caméras observent et dénoncent. Il en a fait tomber plus d'un et plus d'une. Là, il va faire un truc dingue. Il va dire qu'il a commis une erreur. Il va effacer la preuve filmée et pour obtenir la libération de cette jeune fille. Et après, il va lui courir après pour essayer de la rencontrer, tout simplement. Et c'est là qu'ils vont être amenés à voir qu'il y a une forme de résistance dans cette société donc surcontrôlée. C'est vachement bien. Graphiquement, c'est très sympa. Vraiment, ça, tu sens l'influence temps moderne, Brésil et puis Métropolis dans les décors. Je trouve que les décors sont vraiment très réussis et les petits personnages sont caricaturés comme tu aimes bien. Tu sais, des longs nez pointus, etc.
Attention à ce que vous dites. Attention à ce que vous dites, parce que si vous n'êtes pas assez inclusif, est-ce que les nez sont pointus ou crochus?
Et voilà, il y a des nez ronds, des petits nez pointus. C'est très coloré. Moi, je trouve que c'est un très très bel album.
Montrez-le-moi. Tiens,
c'est un dessinateur que je connaissais pas, Michel Collin. Vraiment, il rend ça, cet univers chatoyant. C'est une grande aventure avec plein de sentiments. Il y a un petit côté Walt Disney aussi là-dedans. J'aime dans cette histoire. Elle est vraiment très chouette, c'est Monsieur Corbeyron au scénario. Alors lui, faut reconnaître qu'il en a, pondu des histoires.
Il en a dans le coffre.
Ah bah lui, il en a pondu des histoires. Donc vraiment un truc très très réussi. Ça apparaît chez Glénat dans la collection Mifeuille. Ça s'appelle Les yeux doux parce que c'est l'histoire de caméras de surveillance déguisées, cachées, camouflées dans la paire de yeux très kawaii de jolies petites pin-up parsemées dans la ville pour mieux vous regarder. Interlude musical, Rocher. Yes. Ah, Poisson Chat 2.
Ouais. Ouais, mi quoi.
Carlton and the Shoes.
Ouais, c'est bien aussi ça.
C'est plus poisson grillé, en fait.
Oui, on est plus aux Antilles, là, que dans le Bayou. Mais c'est très, très bien aussi. C'est très, très bien. Un bon morceau, je dirais, de...
De votre programmation.
De ma programmation, on s'en sera douté. Du early, je dirais, du early reggae. Quelque chose comme ça, peut-être.
Ouais, ouais. Vous avez un album qui apparemment vous fait beaucoup rire.
Alors, vous savez, j'ai établi...
Vous aimez bien rire.
J'aime bien rire, déjà, effectivement. Puis on ne va pas laisser les auditrices et les auditeurs dans l'état où on les a mis depuis le début de l'émission. Nous ne parlons que de mort, destruction et carnage. Aussi, un peu de...
Un peu de meurtre.
Un peu de gaieté, de fendage de goule, avec « Mamie n'a plus toute sa tête » de Monsieur Romain Dutreix aux éditions d'Argo. Et sur la couverture exceptionnelle de Monsieur Dutreix, mais de toute façon, tout ce que fait Monsieur Dutreix est exceptionnel, il faut quand même le dire. Pour les plus fans comme moi, on peut...
Un briquet, un truc, quoi.
Ouais. Je sais pas si les gens s'en rendent bien compte, hein, et qu'on ne touche rien là-dessus. Hein, je l'ai acheté, d'ailleurs, c'est quel code ? Il n'y a pas le prix, mais c'est un code prix d'un 06. Ça va, c'est pas trop cher, et en plus, moi j'ai une échelle pour voir si un livre est drôle, c'est quand je réveille ma femme, quand elle dort et que je lis la BD. Mmh. Si effectivement je l'entends se retourner en grognant, c'est que oui, et là, je l'ai carrément réveillé grâce à Monsieur Dutreix. J'en suis désolé pour ma pauvre chérie, mais avec Mamie n'a plus toute sa tête, on touche des sommets dans la
déconnade.
Ouais.
Mais bon, s'il y a des morts partout, regardez, il y a du sang partout.
Il y a un peu de sang, hein, c'est gore, parce que Mamie n'a plus toute sa tête. En fait, pour résumer, c'est le quatrième de couverture qui le résume bien. Pourquoi la BD de Romain Dutreix n'avance-t-elle pas? Pourquoi est-il toujours fourré chez sa grand-mère? Y est-il vraiment d'ailleurs? Et pourquoi toutes ces mystérieuses disparitions aux alentours? Autant de questions que se posent son épouse, un détective privé et la police judiciaire. La vie de Romain Dutreix n'a décidément pas de tout repos. Et là, vous voyez, un sosie de Colombo. Je vous dis, c'est le quatrième de couverture. En fait, il a un gros souci, Romain Dutreix. Alors, il s'autodessine, pas véritablement sous des atours, sous un physique, je dirais...
De jeune premier,
il a une espèce de gros nez. Et puis, il lui arrive plein de misère, parce que le pauvre petit bonhomme, sa grand-mère, eh ben, elle a plus toute sa tête. Elle a plus toute sa tête. Et cette fois-ci, alors attention, c'est toujours pareil, parce que des sensitive readers pourraient dire « Oh, il se moque d'Alzheimer !» Vous savez. Et en fait, comment, à travers cette histoire-là, bah, faut quand même bien savoir que Romain Dutreix nous fait part d'un problème, un véritable problème qu'il retranscrit. Moi, j'avais déjà chroniqué, il y a bien, bien longtemps, un somptueux album de Pablo Roca, qui évoquait le sujet d'un album dont j'ai oublié le titre, mais
oui,
c'est chez Dicourt.
Un truc avec du sable dans le titre.
Ouais, c'était absolument génial, très, très sensible, une œuvre très sensible qui parlait d'Alzheimer. Là, eh ben, c'est Dutreix qu'il fait quand même. Dutreix, c'est quand même un monsieur de l'écurie comme en flux glacial. C'est d'ailleurs surprenant que ça paraisse chez Dargo, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et donc je vous le disais tout à l'heure, monsieur Dutreix, c'est régulièrement on peut voir son style et son art du rire condensé en une case avec les dessins qu'il fournit dans le Canard enchaîné. C'est aussi pour ça qu'on ne le voyait plus trop dans Flux glacial. Et c'est bien dommage, d'ailleurs, c'est ce que M. Goussas nous avait dit, rappelé, quand on l'avait interviewé, on lui parlait de M. Dutreix, ah oh là là, un vrai drame de l'avoir perdu. Et là, on le retrouve. La petite Mamie, eh ben, quand elle a plus toute sa tête, eh ben, il y a son bonhomme qui ressurgit. On s'aperçoit que son bonhomme, assez rapidement, on se doute bien que son bonhomme est mort, parce qu'il y a la photo du bonhomme avec un petit, vous savez, avec un petit ruban noir sur le côté. Et le petit bonhomme, il est rigolo, il est en Marcel toujours, puis il a vraiment une gueule années 40 avec un vieux clopio au bec et tout. Et en fait, on a l'impression que, ouais, comme dans une maison maudite, à chaque fois que son bonhomme ressurgit, c'est là qu'elle a plus toute sa tête, quoi. Alors, je voudrais pas quand même trop déflorer le travail, faut garder ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle fait, donc Mamie, quand elle a plus toute sa tête? On en a une petite idée avec la couverture.
Voilà. Je pense que tout est dit.
Voilà. Et ça oblige le pauvre Romain. Romain, il n'a pas envie que sa mamie, elle aille en prison ou chez les fous. Eh ben, il la couvre, sa mamie. Il la couvre. Mais c'est voilà pourquoi sa femme a des doutes. La police aussi. Et lui, je ne sais pas comment il fait pour dormir. On ne va pas le garder longtemps, le pauvre monsieur Dutreix, s'il continue à courir partout, à droite, à gauche, pour protéger sa vieille mamie, qui par ailleurs a l'air d'être tout à fait autonome dans sa maison le reste du temps. Mamie n'a plus toute sa tête de monsieur Romain Dutrexte aux éditions d'Argo. En ces temps plutôt, allez, on va pas se mentir, en ces temps un peu anxiogènes, oublions tout ça avec monsieur Dutrexte. Vous verrez, vous pouvez me faire confiance. Vous me prenez un Dutrexte. Un soir, en suppo. Parce que, en plus, une fois que vous aurez lu Mamie n'a plus toute sa tête, vous n'aurez plus qu'une hâte, c'est de vous plonger dans l'épaisse bibliographie, déjà, quand même, de monsieur Dutrexte, qui a quand même commis pas mal d'ouvrages, que les éditions d'Argo se sont fait un honneur de ne pas citer, hein, sans déconner. Bonjour, le soutien aux autres maisons. Bref, si vous allez dans les éditions Flux Glacial et ailleurs, vous trouverez, ou vous allez sur un excellent marchand, même dans une boutique dont nous tairons le nom, avec plaisir, ils vous vendront du Romain Dutrexte. J'ai veillé à ce que le rayon soit étoffé.
Yes. Je vous propose une deuxième petite dystopie, moi. En fait, on l'a rencontré, la jeune fille Lolita Couturier, pour Détour par Epsilon, qui paraît aux éditions Les Humanoïdes Associés. On l'a rencontré à Quai des Bulles. Et c'est vraiment un très très chouette diptyque qu'elle nous propose, quasiment en œuvre en première œuvre. Et c'est ça qui est dingo. On va suivre les aventures de Tom, une jeune fille qui est bannie de sa cité. On est dans un futur pas si lointain, ça se trouve. Elle est bannie de sa cité, elle se retrouve dans le monde extérieur, et on comprend très très vite que le monde extérieur doit être hostile, parce qu'elle tambourine comme une folle à la porte en hurlant que dehors il n'y a rien et qu'elle va mourir, quoi. Et elle trouve à côté d'elle un sac, parce que la porte reste fermée, elle est bannie. Alors on saura jamais trop pourquoi, on a l'impression que c'est suite à une espèce de dépit amoureux, de relation rompue.
Enfin, je sais pas, elle est enceinte, moi je me suis dit...
Oui, c'est ce que j'allais dire, fallait pas le spoiler tout de suite, mais c'est pas grave. C'est ma chronique.
Vous me posez la question. Si vous me posez la question. Vous savez que je m'entraîne au
jeu. Je ne posais pas de question.
Si vous me regardiez avec l'air de aidez-moi, Roger.
Pas du tout. Elle va donc trouver un sac où dans lequel il y a une carte, un chemin qui lui est tracé vers une autre cité. Et puis on va donc suivre son odyssée. Et puis très très vite il y a un deuxième petit personnage qui apparaît, c'est Lélé, une espèce de petite fille dont on sait rien, mais qui est une petite blondinette avec des couettes, qui est muette, qui a l'air vraiment très espiègle, qui apparaît par moments et qui disparaît par d'autres. Et on va suivre donc l'odyssée de Tom, qui va devenir en fait un enjeu, parce qu'effectivement elle est enceinte, si vous ne le saviez pas encore.
Oh là là.
Et ça attire des convoitises, une fertilité de la cité où on imagine le monde est protégé de ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur il y a des tout pourris qui traînent.
C'est-à-dire que même si on est bien, j'ai l'impression qu'on finit par pourrir un peu.
Exactement, comme s'il y avait des radiations, etc., etc. Et donc ça, on va dire, son potentiel génétique attire les convoitises. C'est vraiment un très chouette album avec une dimension onirique très très forte, une première œuvre vraiment très réussie. Le dessin est très chouette. Elle a vraiment son style, c'est très coloré en plus. Ce qui est bien, c'est que dans son monde extérieur, ça aurait pu être un truc qui ressemblait à La Route, par exemple.
Du désert,
de McCarthy, ouais, des cendres partout, etc. Enfin, comme le monte l'Arsenet, c'est-à-dire on aurait été dans l'angoisse. Là, c'est très illuminé, enluminé. Le soleil est très fort. Il y a beaucoup d'herbes, etc. Enfin, la nature a vraiment repris ses droits à l'extérieur aussi. Elle est très chatoyante et c'est assez surprenant. Le contraste entre vraiment, on a l'impression d'être en Espagne tellement il fait beau, et le monde tout pourri, en fait.
Et c'est elle assume comment des traits personnels qui font que moi, ce que j'adore.
Il y a beaucoup d'énergie.
Ouais. Par exemple, ces mouettes, ils ont
elles sont effilées comme ça.
Ouais, comme des couteaux. Et elle voulait que ces mouettes, cette gueule-là, et bon, elles sont, c'est comme ça et c'est très bien. Elle fait tous les couleurs et c'est très important.
Ouais. La mise en page aussi est super réussie quand il y a des scènes d'action, par exemple. Je repense à une scène sur l'autoroute. Vraiment, elle fracture la page en plein de petits vignettes, comme un miroir qui s'éclate. Tu vois, ça fait plein de petits éclats comme ça. Elle te fait une double page avec la scène de baston comme ça, avec des trucs presque à la chinoise, kung-fu, des plans serrés sur les yeux, des actions du mouvement.
Ouais, c'est impressionnant. Wow. Pour un premier, elle est très
très forte.
Bravo. Je pense que Lolita Couturier, on n'a pas fini d'en entendre parler.
Détour par Epsilon, donc une dystopie, c'est pas forcément très rigolo, hein.
Non.
Mais,
deux sur deux, il y a deux tomes.
Ouais, c'est vraiment bien. Le diptyque s'est sorti aux Humanoïdes Associés. Il va être temps de retrouver, Nos invités, je crois, Roger.
Oui, c'est bien possible, c'est vous qui avez l'horloge.
Exactement. Alors rappelons, nous allons donc retourner à notre festival de Quai des Bulles pour notre deuxième rencontre. C'était avec donc monsieur Jean-David Morvan et monsieur Emmanuel Moineau. C'était pour L'Armée des Ombres, une adaptation du roman de Kessel. Que l'on connaît beaucoup, on va l'évoquer, à l'ombre de Melville, on va dire. C'était notre deuxième interview, et c'est un album paru aux éditions Phileas. Et on commence tout de suite, alors, une musique de circonstance par nos invités.
Je tiens à dire que là, ces invités qui ont choisi toute la programmation. On y veille, la maison Plume et Pinceau est une maison sérieuse.
C'est vrai.
Il faut le rappeler.
Retrouvons Germaine Sablon pour le chant des partisans.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, à vos armes! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades! Sortez de la paille, les fusils à mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Les compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute.
Record.
Eh bien voilà, sans mollir, nous recevons maintenant messieurs Jean-David Morvan et Emmanuel Moineau, bonsoir, bonjour, il fait encore jour,
bonjour. Il fait beau même. Hein.
Vous avez du bol. Pour une adaptation de L'Armée des Ombres de Joseph Kessel, paru aux éditions Phileas, c'est bien ça mon bon Moineau.
Ouais. Et la première question qui nous est venue en fait, c'est des adaptations de romans, bandes dessinées, il y en a eu plein, il y en a Manu Larsonnet, La Route, etc. Mais quand même, on s'est regardé, et L'Armée des Ombres, c'est pas n'importe quel bouquin en fait, on avait presque envie d'y aller frontal et de vous demander, mais qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer dans ce choix-là?
Je crois que tous les deux, on nous l'a proposé, donc on a dit oui, c'est tout bête en fait.
C'est M. Phileas qui vous a chopé.
Exactement, oui. Il nous a demandé et en fait, c'est le premier bouquin que j'ai relu, parce que j'avais déjà lu quand je suis allé voir Madeleine Riffaud, avec qui je fais la série Madeleine Résistante, pour pas avoir l'air complètement inculte sur la Résistante, exactement, sur la Résistance. Et donc, c'était presque logique que je dise oui à partir du moment où je me suis rendu compte que, avec toutes les discussions pendant 7 ans qu'on avait eues avec Madeleine, j'avais une vision beaucoup plus précise, je pense, du roman qu'avait voulu faire Kessel en mélangeant tous les groupes de résistance, en essayant de faire le CNR comme Jean Moulin était en train de le faire en France physiquement, et le roman il colle à ça, et donc je me suis senti soudain plus intelligent et j'ai pas eu de problème à le faire.
Vous aussi vous nous rendez intelligent, parce que c'est quand même grâce à vous que j'ai su que c'était de Joseph Kessel, que c'était un espèce d'ouvrage de commande, ce dont j'ignorais tout. Par contre, il y a un truc qui m'a... C'est pas que ça m'a perturbé, mais on est nombreux à connaître l'adaptation cinématographique.
Nous, de Melville, ouais.
Et j'imagine, et du coup, quand on lis L'Armée des Ombres, quand on la découvre, j'ai l'impression à quel moment je vais voir la mère Signoret. Mmh. Et c'est pas perturbant, ça, après, quand vous avez dû l'adapter en bande dessinée, ça vous a pas perturbé?
Bah non, nous, l'avantage, c'est qu'on n'avait pas à les payer, en plus, les acteurs, donc c'était bon pour ça.
Donc déjà, ouais, c'est vrai, pu la reprendre.
On aurait pu la faire en 3D, comme Carrie Fisher dans un Star Wars I2, là.
Mmh. Ouais, ouais.
Mais je pense qu'il n'y aurait rien eu de plus gênant que d'essayer de coller au film, de coller la trogne de Lino et celle de Simone sur les personnages, ça aurait été embarrassant pour tout le monde.
Même si en même temps, on ne peut pas s'empêcher d'y penser quand même, parce que c'est un film qui est marquant comme votre livre.
Oui. Mais j'ai la chance d'être capable assez facilement d'échapper à ce genre de piège. D'abord parce que je ne suis pas super bon en portrait, et d'autre part parce que je vais vivre pendant une période donnée assez longue avec les personnages, j'ai envie que ce soit des personnages qui m'appartiennent un peu. Voilà. Et donc j'ai abordé moi ce bouquin en me disant même pas peur, parce que j'avais déjà adapté un roman d'Irène Némirovski, suite française, qui parle pas tout à fait de la même période, qui parle de l'Exode. Et pareil, on m'a demandé après comment si j'avais pas eu peur de le faire. Et ben non, en fait, à partir du moment où quelqu'un me demande de le faire, c'est que je dois pouvoir y arriver.
Et puis ça aurait été un non-sens de prendre les acteurs, puisque l'idée même c'était d'adapter le roman et de ne pas adapter le film.
Mais même sans parler des visages des acteurs, les scènes, de toute façon vous êtes forcé de reparler des mêmes événements.
Bah, c'est celles qui sont dans le livre.
Ouais, voilà, donc on ne peut pas inventer. Donc voilà. Et en tout cas, comme dans le film, et ça c'est indépendamment, ça c'est votre travail à vous. Eh ben, alors c'est peut-être parce qu'il y a Roi des Mois, des Détrouillards, mais on ressent la même angoisse quand on prend le train. D'ailleurs, on est venu en train ce matin, pas pire, miteux, quand on nous a demandé les tickets dans le train, on y pensait. Ah, c'était quand même, c'est bien flippant, quoi.
Non, mais ça fait, je pense que ça fait peur à nous aujourd'hui, mais je pense que ça leur faisait peur aussi.
Ouais, je pense.
C'est-à-dire qu'en fait, ils vivaient 24 heures sur 24 dans la peur d'être arrêtés, que ce soit chez eux quand ils entendaient des bruits dans le couloir ou dans le train ou n'importe où. Et qu'ils étaient obligés de vivre avec ça et qu'ils continuaient quand même. J'ai un exemple d'une dame qui s'appelle Mila Racine, qui passait des enfants juifs de Annemasse jusqu'à la Suisse. Et en fait, elle a été arrêtée. Il y a une dame qui s'appelle Marianne Cohn qui a repris son rôle alors qu'elle avait été arrêtée par les nazis. La première est morte à Ravensbrück et la deuxième a été trucidée par les nazis à Annemasse dans la prison. Et c'est des gens qui savaient exactement les risques qu'il y avait et qui pourtant les ont pris. Donc il y a quelque chose qui nous dépasse, nous, et on ne sait pas, effectivement, je pense que c'est la question que tout le monde se pose, comment on aurait réagi à cette période-là. Mais je crois qu'on ne peut pas le savoir, donc ça ne sert à rien de se poser la question.
C'est marrant comment votre carrière a pris, Monsieur Morvan, un tour beaucoup plus historique, c'est beaucoup plus réaliste finalement. Au début, moi, je vous ai connu avec Sillage, des choses comme ça, vous étiez vraiment dans la fantasy, la SF. Et finalement, j'ai l'impression que maintenant, vous trouvez que la vraie vie, c'est finalement plus romanesque que la fiction, quoi.
Bon, en fait, je dirais oui et non, parce que je parlais déjà, je pense, des mêmes sujets exactement dans Sillage, dans Troll, dans tout ça, de la démocratie, de la résistance. Il y a un Sillage qui doit être le 5 sur le terrorisme. Et en fait, en revanche, effectivement, j'essayais d'enrober tout ça pour donner une vision un peu plus attirante, mainstream, on va dire, des histoires, et de piéger les gens en leur racontant autre chose que s'ils avaient l'habitude de lire en SF ou en heroic fantasy, ce qui me vient de Pierre Christin sans aucun doute. Donc c'était ça, et puis là, au fur et à mesure, je me suis dit mais on peut se rapprocher de la réalité, mais finalement je suis pas étonné d'en être arrivé à faire des choses sur la résistance, parce que je me suis rendu compte a posteriori que j'en faisais déjà.
Puis de toute façon, je pense que la rencontre avec Madeleine,
oui, bien sûr, évidemment,
enfin je veux dire, a changé plein de choses dans votre vie,
on le
sent.
Ma vie, oui, je pense, un peu la sienne, j'espère.
Alors, donc vous voulez, les éditions Filas viennent vous chercher. Vous étiez déjà associé
Non, jamais.
Ouais, c'est ça. Hein. Donc, mais
comment on se croisait régulièrement depuis une trentaine d'années, à peu près.
Ouais, vous connaissiez
donc,
déjà.
C'est vous, Monsieur Morvan, qui avait été voir Monsieur Moineau. Ça, c'est.
C'est Éric Derrian, c'est notre éditeur. On a cherché quelqu'un qui pourrait coller. On a demandé à plusieurs personnes. Mais jamais, moi il y a un truc que je déteste vraiment quand on fait des choses comme ça, c'est demander à plusieurs dessinateurs en même temps et de les mettre en concurrence, je déteste. Et puis finalement assez vite, c'est Emmanuel, je crois, troisième, et on s'est dit pour les ombres, Emmanuel c'est parfait, donc allons-y, et on a eu de la chance, il était libre à un moment, plus libre à un autre, mais ça nous a permis de faire un livre un peu particulier, et je pense qu'il va vous raconter ça.
Alors qu'est-ce qui vous a plu, vous, Monsieur Moineau, de rentrer dans
cette aventure
des ombres?
Pour être précis sur le déroulé des choses, c'est qu'il y a eu un moment, comme c'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière, où je cherchais du boulot, et on m'a proposé plusieurs trucs qui m'emballaient vraiment pas. Et voilà, quand Eric Derrian m'a parlé de ce projet-là, j'ai dit, bah oui, ça, je peux le faire. C'est logique et ça tient la route. Voilà, après, il y a eu effectivement cet incident de parcours que le projet a mis longtemps à se mettre en route et qu'entre-temps, j'avais entrepris autre chose. Qu'on a donc dû faire appel à un deuxième dessinateur qui a le bon goût d'habiter dans la même ville que moi en plus, Benoît Lacoux, et qui a réalisé les décors sur mes indications. Ce qui a fait gagner beaucoup de temps, ce qui a permis au livre de sortir dans les délais que voulait l'éditeur. C'est-à-dire d'arriver en 2024 pour les 80 ans du débarquement. Donc, et ça a été une expérience assez excitante. J'avais jamais fait de travail entre guillemets de studio. Et là, il y avait une évocation de la façon de travailler des anciens qui était assez plaisante. Et c'est toujours... c'est toujours un peu magique d'imaginer quelque chose et de le voir arriver sur son écran tout fait, quoi.
Ouais. Et votre expérience sur Burma avait peut-être aussi un peu aidé à, comment dirais-je, à avoir un peu cette période, parce qu'il y a Nestor Burma contre QFD.
C'est QFD,
il passe dans l'occupation.
Effectivement, pendant l'occupation. Ouais. C'est ce qui m'intéressait dans celui-là, d'ailleurs. Le suivant que j'ai fait, et qui sera le dernier, a priori, L'homme au sang bleu se passe en 1946, donc juste après la libération, la fin de la guerre. C'est une période, je pense qu'on s'y retrouve confronté à un moment ou à un autre dans sa vie quand on est de nos générations. Ça a touché nos parents, ça a touché nos grands-parents. Quand j'étais enfant, j'avais l'impression que c'était quelque chose qui s'était passé il y a très longtemps. Et plus on grandit, plus on s'aperçoit que non, c'était tout près de nous. Moi, je suis né en 60, c'est-à-dire que 15 ans après seulement. Oui. Et maintenant, quand je réfléchis aux 15 dernières années de ma vie, elles ont passé à une vitesse folle. Donc c'est là qu'on voit que c'était très proche de nous.
Oui, oui. J'ai mis beaucoup de temps, moi, à réaliser que mon grand-père, par exemple, avait connu la Seconde Guerre mondiale, qu'il avait 14 ans la période, qu'il a vu les Allemands arriver à l'Orient et tout ça. Ouais.
En même temps, ce qu'il y a de bien dans cette histoire-là, c'est qu'elle rappelle que le simple, on en parlait brièvement tout à l'heure, mais le simple citoyen lambda peut devenir un héros du jour au lendemain. Des scènes à la con, quand par exemple il y en a un, il arrive chez un coiffeur, pouf, vous voulez me faire une petite couleur pour faire une surprise à ma femme, et le coiffeur qui dit je vais vous filer ma veste parce que avec la petite veste déchirée là, votre femme elle va pas être contente. On a presque envie d'en chialer, quoi, parce que le coiffeur accepte le pourboire, il file sa veste, etc. Et ça me fait penser à cette chanson de reprise par Leonard Cohen, vous savez, quand il disait la France entière, j'ai plus de famille, plus d'amis, mais j'ai la France entière. C'est magique quand même.
La complainte du partisan, mais en fait...
C'est magique, mais c'est un mythe. Il y avait aussi des gens qui n'étaient pas favorables à la résistance.
On va pas parler des balanceurs des enfants,
C'est au fur et à mesure des années, la résistance et l'occupation changent. C'est-à-dire que c'est pas la même en 40, 41, 42, 43, 44. On voit bien l'évolution du peuple français à travers ça, et c'est pour ça que la résistance avait besoin de faire des actions pour sentir les Français, pour voir où ils en étaient dans leur détestation des Allemands. Et c'est sûr qu'au bout de 3 ans, ils n'en pouvaient plus. Il n'y avait rien à bouffer, il n'y avait pas de chauffage. Et donc les gens, ils changent un peu d'avis. Mais la scène dont tu parles avec le
coiffeur,
c'est ma scène préférée du film. À vrai dire, d'abord parce qu'il y a Reggiani, et j'adore Reggiani. Et aussi parce que dans cette scène, on voit Reggiani qui l'aide alors qu'il a un portrait de Pétain.
Exactement.
Sur son mur qu'on a remis. Et donc je trouve ça extraordinaire, enfin je trouvais ça génial en fait de complexité en fait. Il a le drapeau de Pétain mais il aide quand même le résistant. C'est complexe en fait.
C'est très très émouvant. Enfin,
Ouais, mais de toute façon, la période, on le voit bien dans l'album, elle est vraiment folle parce que en fait, toutes les normes sont perturbées. L'aristo peut se lancer dans un combat pour la France comme la paysanne. On ne sait pas ce que fait son frère. Un inconnu peut devenir ton frère et ton frère peut être un inconnu. Enfin, toutes les normes sociales, tout est bouleversé, quoi.
Effectivement, ça aborde aussi un sujet qui est peu souvent abordé. C'est la résistance d'extrême droite, le nationalisme d'extrême droite, le marquis. Et c'est un aspect réel de la résistance. Ce n'est pas le seul, mais c'en est un.
Mais même être résistant, c'est être quelqu'un dans l'illégalité, clandestin, et en fait, un héros national, quoi.
Il y en a beaucoup qui n'ont jamais voulu en parler après, en plus. Et d'ailleurs, c'est comme ça que se termine La Complainte du Partisan, qui est une chanson que j'adore, et qui dit...
Retournerons dans l'ombre.
Voilà, quand la guerre sera finie, nous retournerons dans l'ombre. Donc en fait, pour eux, leur boulot sera terminé et en fait, ils redeviendront des citoyens lambda. Et moi, en travaillant sur Madeleine et d'autres, j'ai beaucoup de problèmes à retrouver, en particulier avec Madeleine, des gens qu'elle a connus, dont elle connaît le nom de guerre, et en fait, qui n'ont jamais parlé après. Et donc, pour les retrouver, au moins qui ils étaient, leur vrai nom, etc., c'est une galère pas possible parfois.
Comme ceux qui meurent en prison, dont on ne sait pas le vrai nom.
Meurent sous un faux nom, c'est terrible. Le résistant qui dit « je vais mourir sous un faux nom, ma femme ne saura jamais ce que je serai devenu ».
Et je trouve que dans votre dessin, on voit bien ce côté aussi armé des ombres. Les aplats noirs sont très présents, c'est vraiment, c'est voulu ça. C'était l'idée de départ.
C'est le truc qui justifiait que je sois aux commandes du dessin. Alors moi, je m'oppose assez à l'idée de héros. Et je pense justement, ce qui est intéressant, c'est de montrer l'action collective de la résistance et non pas de glorifier tel ou tel. Donc moi, j'avais pas envie, par exemple, qu'il y ait la gueule de Gerbier en couverture, parce que pour moi, Gerbier n'est pas le héros, même si c'est un personnage qu'on suit beaucoup. Gerbier, c'est comme les autres, un résistant.
J'avais une question, c'est le collectif qui était mis en avant, c'est le groupe.
C'est l'armée.
C'est ça le sens du titre, pour moi, c'est ça le sens de l'ouvrage.
Alors que le personnage de la tonsure, à sa manière, alors justement, il y a la fin de la tonsure. Moi qui suis très fleur bleue, je trouve que vous montrez bien l'horreur de la situation, surtout à travers les témoignages du gamin qui fait des cauchemars, là, vous savez, le petit chasseur.
Le petit chasseur de l'hôtel T.
Et moi, je trouve ça très bien. Enfin, pour moi, fleur bleue, hop, l'horreur, on la voit par la parole du gosse, quelque part, on la devine. Et puis, la tonsure, qu'est-ce qu'il est devenu? Il y a juste une vignette sur laquelle, là, où vous autorisez, effectivement, la tonsure, il ne ressemble plus à rien, mais il est reconnu, j'ai reconnu.
Avec grosse tonsure,
C'est facile d'aborder des scènes comme ça. Je pense notamment à vous qui connaissez Madeleine, donc résistante, qui est passée par la torture. Comment on se met là-dedans?
Je pense que c'est un des degrés ultimes du travail de scénariste, sans doute, de réussir à raconter d'une manière émouvante, touchante, mais pas putassière, ce genre de scène, en fait. Et je pense que c'est un boulot, on est quasi au plus dur du plus dur de ce qu'on peut raconter. Parce que l'idée, c'est que les gens, ils encaissent, qu'ils tournent la page pour lire un truc encore plus dur, mais que jamais ils retournent le livre, ils referment le livre et qu'ils ne soient pas trop choqués pour refermer le livre. Et c'est quelque chose que je rencontre souvent avec Ginette Colinka quand j'ai fait Adieu Birkenau ou sur d'autres bouquins. Il faut réussir à être sur cette espèce de limite-là et de se dire « j'ai été bouleversé ». Comme sur le Madeleine 3, on l'a entendu souvent, mais j'ai quand même continué à le lire. Et donc c'est intéressant de trouver des stratagèmes, et si possible toujours différents, pour raconter ce genre de choses. Là, je commence un nouveau bouquin sur le Sonderkommando, qui sont donc les juifs qui s'occupaient des fours crématoires à Auschwitz. Et là, je ne sais pas encore comment je vais raconter ça. Je me dis, je vais bien trouver un moyen. Et à chaque fois, c'est un moyen de tester la limite d'après, en fait. C'est intéressant.
Ce qui est horrible, c'est la scène de torture avec le dentiste. Moi qui déteste ça. Rien que le bruit de la fraise,
Ouais, mais ça, la scène avec le dentiste, pour moi, c'est Marathon Man. Qui est un film génial. Avec un dentiste génial. Et j'y pense tout le temps parce que c'est une scène marquante pour tout le monde, enfin, tous les gens qui l'ont vu.
Et il y a les façons décalées, hein, de voir l'horreur. Comment il s'appelle ce film-là qui est... Ah, bon, là, j'ai été loin. Vous savez où tout se passe? Dans la maison du patron d'Auschwitz.
La zone d'intérêt.
La zone d'intérêt. Et ça peut être terrible. Il y a juste le fait, à un moment donné, on voit un déporté là, qui travaille dans le jardin, qui verse de la cendre au pied des rosiers. On n'a pas besoin de voir les fous. On sait d'où vient la cendre. C'est toute une façon de marquer l'horreur aussi.
Oui, il y a plein de manières de le faire, comme le fils de Saul. Ils avaient décidé de mettre la caméra dans le dos du personnage tout le long du film. Il faut trouver quelque chose. Moi, c'était dans Irena, la première fois que je me suis vraiment posé la question. Irena, c'est une dame qui a sauvé 2500 enfants du ghetto de Varsovie. Irena Sendlerova. Et à un moment, je voulais vraiment montrer le danger de tout ça, donc j'ai voulu raconter la Shoah par balle. C'est-à-dire avant la solution finale avec les Einsatzgruppen. Et donc... Et je pensais que David, le dessinateur, David Évrard, avait un dessin assez jeunesse et que ça passerait. Donc je lui ai dit, tu poses la caméra par terre et tu cadres au niveau des visages. Mais en fait, c'était insoutenable de voir les gens qui se déshabillent, qui sont tués et tout ça. J'étais même moi-même choqué. Et c'est là que j'ai compris qu'on pouvait pas le raconter n'importe comment et qu'il fallait trouver comment. Donc là, on a décidé de baisser la caméra au niveau des pieds. Et après, bah, il faut à chaque fois trouver une nouvelle manière de le faire.
Moi, mon attitude par rapport à ça est la même un peu sur tous les sujets, mais surtout sur les sujets graves, je m'interdis de faire joli. Il est interdit de faire de belles images flatteuses pour le dessinateur quand on traite d'un sujet grave. C'est d'ailleurs la voie qu'avait choisi Art Spiegelman quand il a fait Maus, c'est de ne pas faire de jolies choses. Et après, moi, j'aborde quand je fais une scène de sexe ou une scène d'horreur, pour moi, ça ne doit pas m'impliquer émotionnellement plus que de représenter des gens qui montent ou qui descendent un escalier.
Ouais,
voilà,
ouais.
Rester neutre, impassible, malgré la foudre.
Garde des images quand même.
J'aimerais bien d'ailleurs qu'on s'attarde sur une des scènes que j'ai trouvé vraiment très réussie. C'est celle de. Enfin, elle est très connue aussi dans le film, mais je trouve que vous l'avez traitée aussi de manière très intense. C'est page 98 à 102. Tout ce qui tourne autour de l'exécution, enfin, la presque exécution de Gerbier et de la fameuse évasion. Ouais. Et je trouve que elle est savamment construite cette scène. Ne serait-ce que. Donc, on voit le dessin au départ, on voit nos prisonniers de dos, le peloton d'exécution et rien que par exemple la disposition de la Marseillaise. On sent qu'il y a tout un cheminement, etc. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer un petit peu?
Moi j'en ai chié sur le texte de cette double page et de la page d'avant. Je cherchais comment faire et je travaille avec un lettreur qui a fait le bouquin et on a cherché longtemps. Et je me suis dit, c'est peut-être bien de commencer par le fait qu'il chuchote, et au fur et à mesure, le texte grossit, et on comprend qu'à la fin, il crie et que tout le monde chante cette putain de Marseillaise. Donc, pourquoi la Marseillaise aussi? Parce que je pense qu'on peut pas, laisser le patriotisme à l'extrême droite. Donc, c'est la France, c'est la Marseillaise, c'est pas forcément quelque chose d'extrême droite. Donc voilà, c'était intéressant de le faire, mais surtout, ça a donné aussi un rythme à cette double page. Qui est d'ailleurs très belle avec les couleurs, avec l'ombre qui arrive et tout ça, le cadrage. Bon, bref, j'adore aussi cette double page et la fin avec le portrait du nazi.
Oui.
Mais je trouvais que vraiment ce texte qui grossissait au fur et à mesure, ça rythmait vraiment les choses.
Ouais, elle est très réussie. Et même le cartouche avec le portrait du nazi est intéressant parce qu'en fait, pouf, il trouve des échos par la suite. Et notamment, à un moment, il est complètement transfiguré, deux, trois pages plus loin, avec cette trouvaille des yeux blancs. Là, il est. C'est un werewolf, quoi. C'est même plus il est plus humanisé du tout. Et Gerbier, plus tard, rebondit encore là-dessus en parlant de ce visage qui lui a volé sa haine presque. Enfin,
c'est une scène paradoxale intéressante.
Ouais.
Qu'elle n'est pas dans le film. Enfin, il raconte pas dans le film.
Ouais. Et il y a cette récurrence comme ça. Enfin, ces échos.
Mais en fait, il y a un truc intéressant. C'est encore une fois Madeleine. Qui est allé au procès Papon, parce qu'après son procès, il a fait un contre-procès en diffamation contre quelqu'un qui avait fait un livre sur le 7 octobre et les Algériens jetés dans la Seine, 61, ouais. Donc Enodi. Et donc elle était témoin à ce procès, elle a dit j'ai vu le visage de Papon et en fait j'ai tremblé. C'était des yeux de serpent et le lendemain j'ai fait un AVC. Et donc je pense que c'est, elle en a fait trois, mais je pense que c'est vraiment le. Il y a un moment, les visages, c'est aussi là-dessus que passe le mal, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir si c'est vraiment le mal ou si c'est aussi tout ce qu'on lui prête soi-même, en fait, à Papon. Ouais. Tout ce qu'on met nous-mêmes dans lui. Et donc, c'est intéressant. La manière de le voir, elle est peut-être plus personnelle que ce qu'il est vraiment. Donc, c'est intéressant.
Je m'étais d'ailleurs demandé si vous auriez pu faire un album style Lucien Lacombe.
Ah oui, j'ai revu Lucien Lacombe que j'ai adoré.
J'ai vu il n'y a pas longtemps aussi sur Arte et je pensais à ça. Est-ce que vous pourriez présenter l'autre facette, quoi?
Bien sûr, c'est surtout Lacombe Lucien, c'est complexe parce qu'en fait, il sait pas, et c'est intéressant, parce qu'en fait, il ne sait pas vraiment ce qu'il est. Il est avec la milice parce qu'il y a quelques avantages, mais il aide quand même des juifs.
Il s'est fait dépanner.
C'est un gamin paumé, quoi, voilà, c'est tout.
Ouais.
Jean Moulin, avait des couilles bien plus grosses que sa trouille. Il est mort sous les coups, ce fut long, bout à bout. Il disait, je sais tout, je dirais rien du tout. Il a fait tout ça pour des gens qui franchement ne le méritaient pas vraiment. Ils étaient juste quelques milliers, tout comme lui. Ils ont fait ça pour toi. Et toi tu dis comme ça, la France, elle est trop moche pour moi. Il disait, je sais tout, je dirais rien du tout. Allez les gars, bousillez-moi.
Alors, on parlait d'image tout à l'heure. Une question peut-être plus pour vous, Monsieur Moineau. Comment vous avez travaillé sur la couverture de votre ouvrage ?
Alors, j'ai travaillé sur...
C'est important, la couverture. On parle peu, puis en fait, c'est quand même...
La porte d'entrée.
Ouais.
C'est intéressant, d'autant plus que Jean-David pourra en parler autant que moi, parce que comme la situation patinait, on a fait appel... à la suggestion de Jean-David, un graphiste qui nous a fait des suggestions, parce qu'il y a plusieurs couvertures, hein. Il y a aussi une édition Prestige en noir et blanc, dont la couverture est très intéressante aussi, qui nous a fait des suggestions qui ont permis de sortir de l'impasse dans laquelle on était. C'était très difficile pour moi. L'idée, justement, que j'évoquais tout à l'heure, se retrouve dans cette version de la couverture, parce qu'ici, ça n'est pas un individu qui est mis en avant, c'est une foule de partisans. On en voit même beaucoup plus que ce qu'on en voit dans le bouquin. Donc c'est bien l'idée de dire que la résistance n'était pas le fait de héros isolés, mais au contraire le fait d'une armée de l'ombre, voilà, une armée de gens organisés entre eux, pas seulement des groupes spontanés. C'est ça qui est dit par la couverture de l'édition principale, et ça me semblait très important de le dire. Je suis très heureux que Philippe Poirier, pour ne pas le nommer, ait eu cette idée et qu'il m'ait suggéré de le faire.
C'était la couverture, c'était vraiment très compliqué, et au-delà de la couverture, on avait envie d'avoir un livre qui soit unique, qui soit l'Armée des Ombres. J'avais pas envie qu'on ait un dessin avec un titre et comme un album normal, et à l'intérieur une page blanche, une page titre. Donc on avait fait ça déjà avec le Missak Méliné et le groupe Manouchian, où on a fait une sorte de métaphore de l'affiche en couverture. Et en fait, on a décliné tout le livre sur le sujet de l'affiche, finalement, les mêmes couleurs. Et donc on a vraiment construit le livre comme ça pour qu'il soit un objet unique, et j'avais envie que ce soit pareil pour l'Armée des Ombres, parce qu'il le mérite. Et donc je voulais un livre qui soit designé vraiment du début à la fin, de la première à la dernière page. Et Philippe l'a très bien réussi. Donc on est vraiment très content de ça. C'était du boulot supplémentaire, c'était pas mal de trucs à faire, mais je pense que ça valait vraiment le coup. Et après, ce qu'on s'est dit dès le départ, c'est quel est le plus important dans l'Armée des Ombres, c'est le titre. Donc c'est pour ça que le titre sur toutes les éditions, il est vraiment très gros.
Oui, oui.
Parce que c'est le titre qui parlera aux gens en premier finalement. Donc c'est pas spécialement commercial, mais je pense que l'importance du titre en même temps était vitale dans cette couverture. Et intégrer un énorme titre comme ça, c'était pas facile. On avait vraiment besoin d'un graphiste. Nous, on s'en sortait pas.
Alors autre cerise sur le gâteau, c'est le cahier qu'il y a à la fin. Je sais pas où vous avez trouvé tous ces documents, comment vous avez réussi à accéder à tout ça, mais c'est d'une richesse et ça apporte encore.
Je parlais de Missak Méliné, le groupe Manouchian, c'est Thomas Fontaine, Caroline François, qui travaillait avant Caroline au Mémorial de la Shoah, qui avait fait pour moi l'exposition sur Ginette Kolinka, et puis qui travaille avec Thomas Fontaine, qui est le directeur du Musée de la Résistance Nationale, du MRN. Et donc il avait déjà fait le dossier avec moi sur Manouchian et je lui ai redemandé sur l'Armée des Ombres. Donc il y a un dossier, il y aura une expo bientôt aussi qui sera itinérante parce qu'on trouvait que le sujet était important et qu'il y avait beaucoup de choses à dire là-dessus. D'autant que j'avais proposé au départ chez Phileas de faire l'histoire de Kessel pendant qu'il écrivait le roman, un peu comme j'avais fait avec Les Croix de Bois où j'avais mis la vie de Dorgelès à ce moment-là quand il était en train d'écrire le livre. Donc c'est un mélange entre sa vie et le roman. Et là, c'était pas possible pour plein de raisons de droit, etc. Donc ça pouvait être compliqué. Et donc je tenais absolument à ce qu'on raconte l'histoire de la création du livre. Et j'ai donc demandé à Thomas s'il pouvait s'en occuper. Et il nous a fait un dossier d'enfer. Ce qui fait que je pense que quand on ferme le bouquin et si on a bien lu le dossier, on sait à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur l'Armée des Ombres.
Ah oui, je pense que tous ces CDI de lycée.
On y pense.
Mais oui, c'est clair.
Mais ça, c'est lié aussi à l'accompagnement des éditions Phileas. Ils ont une volonté aussi, peut-être, une collection de bouquins plus historiques.
Bon, en tout cas, ils m'ont dit oui tout de suite. Donc, je pense que l'idée était bonne au départ. Ils ne voulaient pas, si je me souviens bien, faire le dossier historique dans cette édition, mais plutôt dans une édition de luxe. Et je leur ai dit, je me permets de vous dire qu'à mon avis, vous vous trompez, parce que c'est dans cette édition que c'est le plus important, puisque c'est l'édition que les gens vont pouvoir lire, les enfants vont pouvoir lire, qui va circuler partout. Et c'est là qu'il faut parler de l'histoire. Après, on peut faire un très beau dossier graphique comme il y a dans l'édition noir et blanc, mais le côté historique, c'est là qu'il doit être, parce qu'en fait, il est pour tout le monde et pour que tout le monde se retrouve dans cette putain d'Armée des Ombres, qui est quand même un truc compliqué, la résistance.
Ouais. Le devoir de mémoire, comme on dit.
Moi, j'aime pas le devoir. Je faisais pas mes devoirs à l'école, mais l'envie de mémoire, voilà.
L'envie de mémoire, c'est joli ça.
Et la transmission,
la transmission.
De l'esprit de résistance.
Ah, par les temps qui courent.
On en a besoin aussi, oui.
Et vos projets, messieurs, est-ce qu'on peut poser une dernière question? Vous avez déjà plein de travaux en train, j'en sais rien.
Alors, j'ai concomitamment à la sortie de cette œuvre, j'ai aussi une œuvre plus où je suis aux commandes, aux manettes à tous les niveaux, qui est sortie fin septembre chez Glénat, qui s'appelle La suprématie des Under Baboons, et qui raconte un peu les liens qu'il y a entre les comportements aberrants des primates humains et les comportements des primates non humains.
Ouais, et l'homme est le pire des primates.
Et par ailleurs, je me lance dès que la tournée de dédicace est finie sur un nouveau bouquin qui sera un polar, comme j'en ai fait beaucoup, mais qui sera différent, évidemment.
Yes. Et monsieur Morvan ?
Bah, ça dépend, si vous voulez une petite heure supplémentaire, je vous raconte.
Je savais que
le dossier.
C'est long. Non, mais bon, on va dire qu'on sortira le Madeleine Résistant tome 4, normalement vers octobre-novembre 2025. Donc on est en train de travailler dessus avec Dominique là, qui fait un petit break pour venir à Saint-Malo, il devrait arriver. Et puis il y a je crois Les Amis de Spirou tome 2 qui va sortir en début d'année, qui raconte la résistance mais aussi l'histoire du journal de Spirou en Belgique, là c'est le tome 2. Et après d'autres choses que je suis en train d'écrire qui sont
vous ne dormez pas en fait.
Ouais, moi je trouve que je glande pas mal en fait.
Ah, prenez donc, du sucre, mangez du sucre.
Voilà, on a une question fil rouge qu'on va poser à toutes les autrices, tous les auteurs qu'on va voir, bien plus légère que le sujet que vous avez abordé dans l'Armée des Ombres, mais face à une boîte de Haribo, quel est celui sur lequel vous craquez en premier?
Moi, toujours les rouges ou les roses.
Les rouges ou les roses,
ouais. Après, tous les autres, j'ai...
Ah, et vous, monsieur Wano, vous êtes comme moi, plus le dragibus géant.
Le dragibus noir, parce que j'ai une sympathie pour le drapeau noir, que tout le monde n'a pas.
On l'appelle l'ami des dentistes, celui-là. Bourré de sucre, je connais.
On vous remercie. En tous
tout cas,
les
merci Bernard d'avoir passé un moment avec nous. Vraiment.
Merci, c'était cool.
Et
merci
très bel album.
À dans 20 ans alors.
Merci, merci beaucoup.
Au revoir. C'est vrai.
L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas bu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Hier encore nous étions 3, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond. Dans la prison des frontières. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, l'ennemi il a su. Il est mort sans surprise. Le vent souffle sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera, nous rentrerons dans l'ombre.
Et nous avons clos cette interview avec Monsieur Morvan et Monsieur Moineau pour l'Armée des Ombres, Paris aux éditions Phileas, avec, je dirais, le deuxième hymne peut-être de la résistance, Anne Marly, la complainte du partisan. Tout ça était fort gay,
voilà,
bah extrêmement anxiogène.
C'est l'époque qui veut ça, mais que tant qu'on a le droit et que on n'est pas encore atomisé ni pulvérisé dans l'espace, vous pouvez toujours nous écrire.
Oui.
N'hésitez pas à nous envoyer des briquets. Vous êtes une jeune maison d'édition qui a envie de devenir célèbre, un jeune auteur, une jeune autrice. Vous nous envoyez des trucs, briquets, bonnets, il commence à faire froid. Qu'est-ce qu'on prend aussi? Ça fait tout, ticket restaurant. Non, on peut plus les tickets restaurant, c'est des cartes. Chier. Et voilà. Bon, monsieur Plume.
Oui, on aura encore une émission de Plume et Pinceau et après on retrouvera les Grignoux, si je me trompe pas dans la note chronologie.
Yes, en espérant qu'effectivement cette émission-là vous l'entendiez, parce que il semblerait qu'il y ait des problèmes de réémission.
Je vais regarder ça, ça doit être des trucs de datation, mais c'est pas très important. Bonne lecture, tant qu'on a le droit. On va conclure comme ça, traditionnellement.